merci à tous les parents qui sont venus pour assister à notre petite finale de l'école des champions de la lecture. Bravo à tous les élèves qui sont bien impliqués dans le projet, hein, et félicitations aux six finalistes qui participent là aujourd'hui. Merci aussi à ceux qui se sont déplacés pour faire le jury de cette finale. D'accord, hein. Et maintenant, je vais laisser vos camarades lire chacun à leur tour.
Je vais vous lire « Étoile filante » d'Emmanuel Bourdier, le chapitre 5. La mode des jeunes de dos s'est étendue à l'Europe entière. Mais c'est bien le cadet de mes soucis. Il me faut trouver un plan B. Encore une fois, quelques solutions violentes sont venues me titiller le cerveau. Un bâton de dynamite dans un paquet de gâteaux, un petit coup de bazooka dans notre bus, une bombe nucléaire pour dynamiser un peu la chorégraphie finale. Mais que voulez-vous ? Pacifique un jour, pacifique toujours. Cependant, à force de chercher, je crois l'avoir trouvé, mon idée de génie. Qu'est-ce qui fait que les Little Stars sont immédiatement reconnaissables ? Leur signe de ralliement ? Certainement pas la musique. Nos chansons sont un paquet de reprises sélectionnées par des grosses têtes chauves dont le goût semble aller des comptines aux arocs. Un grand n'importe quoi avec des paillettes dessus pour faire joli. Certainement pas nos voix, vu que ce ne sont pas les nôtres. De mystérieux artistes enregistrent les morceaux dans l'ombre d'un studio caché. C'est le secret le mieux gardé au monde avec la recette du Coca-Cola. Non, notre point commun, notre marque de fabrique à nous, ce sont nos tenues de scène. Nous portons tous les quatre un costume blanc à paillettes avec cravate rouge et chaussures et chaussettes violettes. Il paraît que ces horreurs ont été créées par le grand couturier Yves Saint-Laurent. À mon avis, il devait être un peu pompette ce jour-là. N'empêche que ça plaît. Ce sont ces tenues qui s'affichent sur chaque poster, chaque mug, chaque paquet de céréales, chaque coque de smartphone ou chaque papier toilette à notre effigie. Capucine dit trouver ça stylé à mort. Ce qui tend à confirmer qu'elle vient d'une planète très lointaine. La planète Débilos dans le système solaire d'Abruti. Nous sommes notre tenue. Juste ça. Parfait. Je tiens ma prochaine cible. Ce soir, nous jouons au Zénith d'Orléans. Mais si, comme d'habitude, entre les répétitions et la sieste obligatoire, nous n'avons pas pu voir grand-chose. De la ville, on nous a fait cadeau d'un quartier libre d'une heure. Si certains sont allés admirer la culotte en ferraille de Jeanne d'Arc, j'ai pour ma part couru dans le premier supermarché, venu avec un Dylan collé à mes basques. Nous avions, lui et moi, des objectifs très différents. Lui, faire sa provision de bonbons multicolores à la gelée de porc. Moi, me procurer le matériel nécessaire à mon triomphe du soir. À la caisse, mon partenaire a regardé d'un air interrogateur le sachet que je venais de déposer sur le tapis roulant.
Je vais vous lire un extrait de Harry Potter à l'école des sorciers. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Demande Harry. Un cours commun de potions magiques avec les serpentards, dit Ron. C'est Rock qui est leur directeur. On dit qu'il essaye toujours de les avantager. On verra bien si c'est vrai. J'aimerais bien que McGonagall ait envie de nous avantager, dit Harry. Le professeur McGonagall était la directrice des Gryffondor, ce qui ne l'avait pas empêché de leur donner une montagne de devoirs à faire. Au même moment, le courrier arriva. Harry s'était habitué à avoir entré chaque matin dans la grande salle, au moment du petit déjeuner, une centaine de hiboux qui tournoyaient au-dessus des tables allaient sans tomber lettres et paquets sur les genoux de leur propriétaire, jusqu'à présent, Edwige n'avait rien apporté à Harry. Parfois, elle venait le voir pour lui mordre à l'oreille et grignoter un morceau de toast avant de retourner dans la volière réservée aux hiboux. Ce matin-là, cependant, elle vint voleter entre la confiture et le sucrier et déposer une lettre dans l'assiette de Harry. Il déchira aussitôt l'enveloppe et découvrit un mot griffonné à la hâte. « Cher Harry, je sais que tu es libre le vendredi après-midi. Est-ce que tu aurais envie de venir prendre une tasse de thé avec moi aux alentours de 3 heures ? Je voudrais bien savoir comment s'est passée ta première semaine. Réponds-moi en m'envoyant Edwige. Hagrid. » Harry emprunta la plume de Ron et écrivit rapidement au dos du morceau de papier. « D'accord, à tout à l'heure. » Puis il confia le message à Edwige qu'il emporta vers son destinataire. La perspective de prendre le thé avec Hagrid mit un peu le baume au cœur de Harry, car le cours de potions magiques fut sans nul doute la pire épreuve qu'il a eu à subir depuis son arrivée au collège. Lors du banquet de début d'année, Harry avait senti que le professeur Rogue ne l'aimait pas beaucoup. À la fin du premier cours de potions, il se rendit compte qu'il s'est trompé. En réalité, Rogue le haïssait. Le cours avait lieu dans l'un des cachots. Il y faisait plus froid que dans le reste du château. Et les animaux qui flottaient dans les bocaux de formoles alignés le long des murs rendaient l'endroit encore plus effrayant. Rogue commença par faire l'appel. Lorsqu'il fut arrivé au nom d'Harry, il marqua une pause. « Ah oui, » dit-il. « Harry Potter, notre nouvelle célébrité !» Drago Malfoy et ses amis Crabbe et Goyle ricanèrent en se cachant derrière leurs mains. Rogue acheva de faire l'appel et releva la tête. Ses yeux étaient aussi noirs que ceux d'Harry, mais ils n'avaient pas la même chaleur. Ils étaient vides et froids comme l'entrée d'un tunnel. « Vous êtes ici pour apprendre la science subtile et l'art rigoureux des préparations des potions, » dit-il. Sa voix était à peine plus élevée qu'un mur, mais on entendait distinctement chaque mot. Tout comme le professeur McGonagall, Rogue avait le don de maintenir sans effort le silence dans la classe. « Ici, on ne s'amuse pas à agiter une baguette magique. Je m'attends donc à ce que vous ne compreniez pas grand-chose. »
Labo et illustré par Caroline Hull. Mon robot catastrophe. Chapitre 1. Le 29 septembre 2087. Demain, j'ai 7 ans. Maman me dit, tu es grande maintenant. Tu n'as plus besoin de baby. Il faut s'en débarrasser. Je supplie, je ne peux pas encore le garder un peu. Non, Oscar, il ne te sert plus à rien. On ira au centre de recyclage tout à l'heure. Je rentre dans ma chambre tout triste. Baby, là, est là, dans son coin. Baby, c'est mon robot nounou. Quand j'étais bébé, il me donnait le biberon, il me faisait mon petit rototo, il me changeait mes couches, il me lavait, il m'habillait, il me prenait dans sa poussette, dans ma poussette à propulsion solaire. Il jouait aussi avec moi, bien sûr, il me chantait des berceuses pour m'endormir. Plus tard, Baby a continué à jouer avec moi et à me lire des histoires. Maintenant, il ne fonctionne plus très bien. C'est vrai, des fois, il dit des paroles, des gestes bizarres. Il fait dire qu'il a été programmé pour marcher jusqu'à mes 7 ans, pas plus. Sur son dos, il est écrit « À recycler avant le 30 septembre 2087 ». Et le 30 septembre 2087, c'est demain. Je mets Baby en marche. Il me dit « Salut Oscar, ça baume ». Je soupire « Non, je dois te déposer au centre de recyclage ». « Je sais, c'est normal, pas grave », répond-il. « Mais je n'ai pas envie ». « Ne pleure pas », prend Baby. « Tu dois le faire, sinon... » « Fais dodo, colle à mon... » « Zut !» Le voilà qui bug encore. Soudain, il me colle sur son épaule. Je crie « Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi !» Il me tapote les fesses en disant « Fais ton rototo, Oscar !» Je roule « Arrête, je ne suis plus un bébé !» J'arrive à l'éteindre. « Ouf, maman a raison, on doit se débarrasser de Baby. »
Je vais vous présenter le livre de Lou a oublié sa tête, chapitre 1. Ce matin, Lou a oublié sa tête. Mais la question c'est où ? Tout le monde lui demande. D'ailleurs, où as-tu oublié ta tête, Lou ? Lou ne répond pas. Comment voulez-vous qu'elle réponde sans sa tête ? C'est l'ébullition dans la cour de l'école. Tous les élèves se sont agglutinés autour de l'enfant. Sofiane, un animateur paniqué, va toquer à la porte du bureau de Madame Vercuisse, la directrice, pour la prévenir. « Madame la directrice, vous devriez venir voir. Il y a un problème avec la petite Lou. Elle a oublié sa tête. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit Madame Vercuisse. Les sourcils froncés, elle traverse la cour à la suite de Sofiane. Chloé, la meilleure copine de Lou, vient vers elle et lui dit « Madame, madame, Lou a oublié sa tête !»« je sais, » répond Madame Vercuisse. « Elle oublie souvent ses affaires, » reprend Chloé. « Et la semaine dernière, elle a même oublié son cartable. Et la maîtresse lui a dit qu'un jour, elle oublierait sa tête. Et ben voilà » !»« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» se demande encore une fois tout haut Madame Vercuisse en se dirigeant vers l'attroupement. Elle écarte les enfants en tapant dans ses mains. « Allez, allez les enfants, de l'air, de l'air !» Elle s'arrête net en voyant Lou, debout, avec son cartable sur son dos, mais sans sa tête sur son cou. Elle pousse un cri. Elle pousse un petit cri de stupeur, puis se reprend et dit à l'enfant d'une voix un peu tremblante. Qu'est-ce que tu as fait de ta tête, Lou ? Évidemment, Lou ne répond pas. Et c'est à ce moment que la sonnerie retentit. Alors, rompant le cercle des curieux, Lou traverse la cour d'un pas décidé et tout le monde la suit en cortège ébahi. Stop ! Où vas-tu, Lou ? Où ? Demande la directrice. Lou ne répond toujours pas. Alors la directrice la rattrape par le bras, mais la fille se dégage et se met à battre l'air avec ses pieds et ses poings. La directrice reçoit le pied de Lou dans le tibia. Elle pousse un juron et saute sur place en faisant des grimaces. Les enfants essayent de ne pas rire, mais n'y arrivent pas très bien. Lou se remet en route. Elle entre dans le bâtiment, monte les escaliers jusqu'au premier étage, puis arrive dans sa classe et s'installe à sa place. Tout le monde se presse à la porte pour essayer de regarder ce qu'elle fait. Mais rien de particulier. Elle pose son cartable à côté d'elle et elle attend. La directrice, en boitant, part s'enfermer dans son bureau. Elle appelle les parents. Ils sont sur répondeur. Le voleur est entré dans l'appartement sans faire de bruit. Il commence à fourrer tous les trésors de la maison dans un grand sac de toile marron. Tout à coup, il entend derrière lui la voix de Lou qui dit « Bah dis donc, faut pas vous gêner, vous !» Il se tourne, posé sur la table basse. Il y a la tête d'une petite fille très jolie qui le regarde les sourcils froncés. Les cheveux du voleur se dressent sur sa tête. Il pousse un cri, laisse son sac en plan et se sauve en courant.
Du livre « Le jour où Mina a appris que les animaux parlaient ». Frayeur dans la forêt. Mina marchait vaillamment, tout à ses pensées, lorsqu'un étrange gémissement se fit entendre. Elle n'en avait jamais entendu de semblable. Surprise, elle s'immobilisa et tendit l'oreille. Fallait-il avoir peur ? Ce bruit bizarre semblait à la fois effrayé et effrayant. Une sorte de grognement plaintif dont il était difficile de savoir s'il était humain ou animal. Que faire ? La raison aurait voulu que Mina prenne ses jambes à son cou et s'enfuit en courant, ou tout au moins accélère le pas. Mais la fillette ne pouvait s'y résoudre. Poussée par la curiosité, elle quitta au contraire le chemin et s'enfonça dans le sous-bois, se rapprochant du gémissement. Soudain, elle n'entendit plus rien. Sur la pointe des pieds, elle continua à avancer sur le sentier. Mais le feuillage était de plus en plus dense, la pente de plus en plus escarpée et le sentier de moins en moins sentier. Si le chemin avait été aussi praticable qu'agréable, le quitter donnait un aperçu de ce que seraient les difficultés pour atteindre le sommet. Mina se faisait cette réflexion, se disant que le détour n'était guère judicieux et qu'il serait plus sage de faire demi-tour. lorsqu'un hurlement la fit bondir. Celui qui l'avait émis était vraisemblablement à quelques pas et, aussi courageuse qu'elle pût être, son sang se glaça dans ses veines. Absolument terrifiée, elle s'immobilisa et ferma les yeux. Sa dernière heure était arrivée. Elle allait être dévorée. Il lui vint également à l'esprit que si elle avait eu davantage de temps, elle aurait pris celui de se maudire pour la légèreté avec laquelle elle avait quitté le sentier. Sa curiosité avait ruiné ses chances de sortir vivante de cette aventure et de sauver sa grand-mère. Et puis, à la réflexion, elle se dit aussi que si elle avait quelques instants devant elle, il serait plus malin de les employer à s'enfuir en courant qu'à se faire des reproches. Finalement, comme elle n'était toujours pas morte, Mina se dit que le temps passait et qu'elle ferait peut-être bien de reprendre sa route. Elle ouvrit donc courageusement un œil et puis l'autre, se demandant bien à quoi elle allait être confrontée. Qu'est-ce qui pouvait donc pousser un cri si terrifiant et ne pas encore l'avoir dévoré ? Peut-être le prédateur préférait-il déchiqueter des victimes aux yeux ouverts. Cependant, ses deux yeux grands ouverts ne virent rien.
Présenter un extrait de Mademoiselle Vol qui a été écrit par Laurence Guillot et Emma Morisson. Chapitre 5. Le cadeau. Anna ferme les yeux et pense à l'anniversaire. Elle n'a pas envie d'offrir un mouchoir brodé à Manon. Non ! Pour son amie, elle voudrait quelque chose de bien plus beau. Cette pensée l'obsède tant et tant qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Plus les heures défilent, plus le cadeau à son ami se transforme en un problème immense. C'est alors qu'Anna a une idée. C'est une idée tentante, mais interdite. Non, pense-t-elle tout bas. Non, je ne peux pas faire ça. Sa maman ne lui a-t-elle pas fait promettre de ne rien toucher ici, de ne rien déranger? Mais pourtant, ce serait tellement facile, tellement réalisable. Et si, elle le faisait quand même, exceptionnellement. Mais juste une fois, oui, juste une fois, pour Manon, se dit Anna en se redressant. Et la voilà qui se lève doucement sans réveiller sa maman. Elle sait où elle va, elle sait quel couloir il faut qu'elle emprunte. La boutique du musée est plongée dans la pénombre. Les yeux d'Anna papillotent. Il y a là tant de choses à contempler, tant de beaux objets rassemblés. Bam! Bam, bam, son cœur s'emballe de nouveau, de peur et aussi de jubilation. Anna se sent grisée d'être la seule dans la nuit. Tout à coup, ses pupilles s'agrandissent et son corps s'arrête devant une corbeille remplie de broches, des broches représentant Mademoiselle Vol. Elle a trouvé Manon Aimera, c'est sûr, dorée ou argentée, elle a le choix. Anna tend la main sans faillir, en prend une couleur or. Puis elle retourne se coucher, la main serrée, avec un sourire timide aux lèvres. Oui, Manon Aimera. L'anniversaire de Manon est un ravissement. D'abord, c'est la première fois qu'Anna entre dans une si belle maison. L'illustre l'étonne, la bibliothèque immense l'impressionne, la cuisine équipée la surprend, la chambre remplie de jouets de son amie l'époustoufle, l'odeur du savon dans la salle de bain l'envoûte. Et puis quand arrive le moment des cadeaux, celui d'Anna remporte un grand succès. Manon accroche aussitôt la broche de Mademoiselle Vol à sa salopette en hurlant « Je l'aime, je l'aime, je l'aime !» Puis son amie se met à battre des bras comme un oiseau et tous les jeunes invités la suivent en riant. C'est un des plus beaux jours de la vie d'Anna. Ça faisait tellement longtemps qu'elle ne s'était pas sentie joyeuse et légère. Ce soir-là, au musée, Anna s'endort le cœur content au plus près de Mademoiselle Vol, sous ses ailes carrément.